Le magazine des Nations Unies.
Voici les titres du magazine des Nations Unies de ce dimanche 5 mars 2023. Bintou Keïta salue l'existence des plans opérationnels du PDDCS dans les provinces de l'Ituri, du Sud Kivu et du Tanganyika. En visite de travail cette semaine à Bunia, en Ituri, la chef de la MONUSCO a évoqué également la franche collaboration entre les Nations Unies et la province de l'Ituri dans la lutte contre la désinformation. Vous la suivez dans cette édition. Attaque d'un aéronef humanitaire des Nations Unies dans l'espace au nord Kivu. Le coordonnateur humanitaire de l'ONU, en RDC, Bruno Lemaki, inquiet. Il appelle toutes les parties au respect du droit international humanitaire et au patrimoine des Nations Unies. L'invité du magazine des Nations Unies de ce dimanche 5 mars, c'est M. Aimé Kasereka, responsable des EU Report au sein du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF RDC. C'est à propos d'une formation organisée à Beni au profit d'une soixantaine de jeunes dans le cadre de la plateforme EU Report. Voilà tout pour les titres et merci pour votre attention.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Encore une fois, bonjour et bon dimanche à toutes et à tous. C'est par la visite de Madame Bintou Keïta à Bunia, en Ituri, que s'ouvre ce magazine. Il y a une franche collaboration entre les Nations Unies et la province de l'Ituri dans la lutte contre la désinformation, les manipulations qui conduisent parfois à des morts parmi la population et des casques bleus. Déclaration de la représentante spéciale, mercredi dernier, après une séance de travail qu'elle a eue avec le gouverneur de province et les membres du comité provincial de sécurité. La chef de la MONUSCO a déploré la reprise des violences malgré la signature des actes d'engagement par les groupes armés et leur participation aux consultations de Nairobi. Un extrait des propos de Bintou Keïta saluant les avancées obtenues dans le cadre du programme PDDRCS au micro de Martial Kiza Biamungu.
Dans le contexte du PDDRCS, les consultations justement à Nairobi, etc., c'est la mission qui a facilité le transport de tous ces groupes armés jusqu'à Goma et puis ensuite le Kenya qui, à travers sa facilitation, les a transportés de Goma jusqu'à Nairobi. Et les dialogues, alors on a facilité la tournée dans les provinces. On contribue intellectuellement avec de l'expertise des ressources humaines au sein de la mission pour l'équipe nationale d'abord du PDDRCS et ensuite nous contribuons aussi avec le développement des plans opérationnels au niveau provincial. Et d'ailleurs, on en a un pour l'Ituri, donc bravo pour le fait qu'il y en a un pour l'Ituri. C'est déjà une avancée par rapport à juillet 2021 lorsque le chef de l'État a signé l'ordonnance du PDDRCS, ensuite en avril 2022, lorsqu'il a approuvé, endossé à travers le comité de pilotage la stratégie nationale de PDDRCS, et ensuite le fait qu'on a ces plans opérationnels au niveau provincial pour l'Ituri. Donc bravo l'Ituri, et aussi pour le Sud Kivu, qui aussi ont un plan opérationnel au niveau provincial. Le Tanganyika a aussi un plan d'action pour cela. Et en ce qui concerne le Nord Kivu, malheureusement, dans le contexte de ce que nous voyons, le Nord Kivu n'a pas encore un plan opérationnel au niveau provincial par rapport à la situation qui est vécue. Donc, il n'y a pas de froideur, il y a une continuité d'accompagnement de la mission des Nations Unies, parce que ce n'est pas simplement la mission, c'est les Nations Unies accompagnent la mise en œuvre du PDDRCS partout où nous nous trouvons.
Avant Bunia, en Ituri, la patronne de la MONUSCO était à Goma au Nord Kivu, où pendant son séjour, elle a visité les déplacés de Kanyaruchinya. La guerre doit s'arrêter, aucune explication ne peut justifier la misère et les conditions inhumaines dans lesquelles vivent des populations déplacées au Nord Kivu, a-t-elle déclaré à l'issue de sa descente sur les sites de Bouchagara et de Mugerwa à Kibati dans les territoires de Nyirangongo. Pour Bintou Keïta, les autorités congolaises à tous les niveaux devraient être en contact régulier avec les déplacés pour les écouter et se rendre compte de leur situation. Écoutons la représentante spéciale.
Tous les témoignages sont poignants parce que ce sont des expériences individuelles et ce sont des expériences familial et c'est des expériences de groupe, de communauté. Et ce qui est dit à travers ces témoignages, c'est que la guerre a des conséquences énormes sur les personnes et les conséquences vont au-delà de ce que l'on voit physiquement. Ça atteint le mental des personnes. Quasiment toutes les personnes que nous avons vues, d'une manière ou d'une autre, sont des personnes qui sont traumatisées. Ça, c'est déjà un des messages, c'est que au-delà de l'assistance physique en nourriture, puisque ça, c'est l'un des premiers messages qui vient très clairement, il faut aussi penser qu'il y a une autre forme d'assistance qui est de prendre en compte le contexte de la santé mentale de toutes les personnes. Et c'est pas pour dire que c'est particulier, c'est simplement on est des êtres humains et donc toutes ces situations traumatisent.
À noter qu'au cours de cette visite, Madame Bintou Keïta a échangé avec les femmes du site des Mouguerois avant de parler avec le comité des déplacés de Bouchagara. Restons encore à Goma. Après une attaque sur un avion humanitaire des Nations Unies, le coordonnateur humanitaire en RDC, Bruno Lomarki, a appelé toutes les parties en conflit au respect du droit humanitaire international. Selon lui, l'attaque d'un aéronef humanitaire des Nations Unies le vendredi 24 février dernier à 10 minutes de Goma lors de son retour de Walikale mettait en péril l'action humanitaire dans l'Est. Denise Lukeso.
Le coordonnateur humanitaire s'est dit profondément préoccupé par la sécurité des opérations aériennes et des acteurs humanitaires qui dépendent de ces vols pour atteindre les groupes les plus vulnérables de la population. L'opération des services aériens humanitaires en RDC reste indispensable pour fournir une assistance humanitaire à des centaines de milliers de personnes dans certaines parties du pays difficilement accessibles, a déclaré le coordonnateur humanitaire Bruno Lemarqui. Suite à cette attaque, en conséquence, les PAM a décidé de suspendre temporairement tous les vols humanitaires dans les zones de conflit en Nord Kivu et en Ituri jusqu'à ce que des mesures supplémentaires soient prises pour garantir la sécurité des vols et des acteurs humanitaires qui les utilisent. Cette suspension aura un impact négatif sur l'acheminement de l'aide humanitaire indispensable aux personnes vulnérables dans ces zones touchées par cette suspension, indique les communiqués publiés lundi par OCHA. Cette dernière attaque est la deuxième au cours des 6 derniers mois, une première attaque ayant eu lieu en septembre 2022. Goma, Denis Bouquet sur Radio Kapi.
Autre nouvelle, volet droits de l'homme. Pour terminer cette page, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH, a organisé mardi 28 février 2023 à Kinshasa un atelier de présentation et de validation du rapport d'une étude menée sur la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels en RDC. C'était en collaboration avec la faculté de droit de l'Université de Kinshasa. Les détails avec Jeff Opela.
Cette activité s'est inscrite dans le cadre de la mise en œuvre du mandat de coopération et d'assistance technique du BCNUDH en République démocratique du Congo, dans l'optique d'offrir aux citoyens congolais les possibilités du droit à un recours effectif en cas de violation de droits économiques, sociaux et culturels, et d'accompagner les institutions nationales de promotion et de protection des droits de l'homme dans l'accomplissement de leurs obligations relatives à cette catégorie de droits. Le professeur Jean-Louis Sambo Kangaché explique.
Notre constitution organise une gamme importante de droits et libertés des citoyens, parmi lesquels le droit économique, social et culturel. Et le Bureau conjoint des Nations Unies a commandé une étude sur la justiciabilité de ces droits économiques, sociaux et culturels. Ça veut dire si un droit économique, social et culturel est violé par une autorité publique, est-ce qu'il y a une possibilité pour que cette personne-là puisse se voir restituée dans ce droit en saisissant une juridiction et notamment la Cour constitutionnelle. Là, l'organique est sur la Cour constitutionnelle prévoit en son article 43 que le procureur général après la Cour constitutionnelle peut saisir la Cour constitutionnelle en cas de violation des droits et libertés garantis aux citoyens.
Les droits économiques et socioculturels sont ceux dont l'être humain a besoin pour vivre une vie digne et pleinement humaine, a déclaré Mme Eureka Kobe, directrice adjointe du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme.
Les droits économiques, sociaux et culturels en particulier sont l'expression juridique de ce dont l'être humain a besoin pour mener une vie digne, pleinement humaine. Et leur réalisation permet l'amélioration des conditions de vie de chaque personne.
Retenons que cet atelier a permis des échanges sur les dispositions constitutionnelles et légales relatives à la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels et a dégagé une compréhension partagée de la procédure et du mécanisme de saisine de la Cour constitutionnelle en cas de violation des droits économiques, sociaux et culturels.
magazine des Nations Unies, décryptage.
À partir du 13 février 2023, la sous-secrétaire générale des Nations Unies aux droits de l'homme, Madame Ilse Brandt-Kerris, a effectué une visite de travail de 10 jours en RDC, une visite qui l'a conduite après Kinshasa dans l'est du pays, notamment à Bukavu au sud Kivu et à Bunia en Ituri. Avant de quitter la capitale congolaise où elle est revenue après l'étape de l'est, Madame Ilse Brandt-Kerris a accordé une interview exclusive à Radio Capi. Suivez son entretien avec Jeff Opela.
Bonjour Madame Ilse Brandt-Kerris.
Bonjour.
Pourquoi votre bureau a-t-il initié cette visite à cette période?
En fait, je suis très heureuse d'être ici d'ailleurs. Ça a été une visite très riche dans le pays pendant une dizaine de jours. Mais en effet, on est allé aussi dans l'Est, dans les zones de conflit. Et surtout, c'est à Goma et à Bunia. On avait des plans depuis longtemps pour que je vienne ici en mission, mais c'est vrai que la situation sécuritaire dans le pays, le conflit qui continue à l'Est, évidemment rend justement cette visite dans les provinces du Nord Kivu et d'Ituri encore plus important. Sud Kivu aussi, mais malheureusement j'ai pas pu m'y rendre, mais je suis quand même très heureuse que j'ai pu faire cette visite parce que je sais qu'il y a des collègues qui sont venus une semaine avant qui n'ont pas eu ce privilège. Donc c'est très important de rapporter ce que nous avons vu dans une situation vraiment difficile que vive la population. On parle aussi souvent de justement cette perspective de sécurité, ce qui est vrai, il faut absolument adresser cette question, mais il faut jamais oublier que c'est la population au centre, c'est chaque individu et la souffrance que j'ai vue là-bas, les violations absolument extrêmes qui ont subi cette population depuis longtemps d'ailleurs déjà, mais qui continuent maintenant. C'est une bonne raison pour s'y rendre, pour les écouter, pour avoir aussi les autorités sur le terrain, les autres acteurs, la société civile, les acteurs humanitaires, pour pouvoir rapporter ces informations et ces impressions à New York, à Genève et ailleurs pour contribuer aux discussions au niveau international.
Pendant votre rencontre, quelles sont les questions concernant le droit de l'homme qui ont été le plus évoquées par vos interlocuteurs?
Premièrement, c'est déjà une question de droit à la vie, n'est-ce pas? Quand on a des conflits comme ça, c'est absolument clair de mettre l'appui sur l'importance du droit à la vie de chaque individu et que donc c'est les questions sécuritaires. C'est clair que tous les acteurs, ont quand même soulevé cette question de la question primaire d'avoir la sécurité pour se sentir en sécurité. On a aussi fait une visite à un camp de déplacés et là c'est certain que c'est des gens qui vivent depuis plusieurs années déjà dans des situations absolument précaires, premièrement, où des droits ne sont pas respectés parce qu'on n'a pas les moyens de les respecter, donc il y a toute une structure qui manque. Mais aussi justement que c'est cette situation de pas seulement qu'ils ne peuvent pas rentrer chez eux parce qu'il n'y a pas la situation sécuritaire là où ils vivent qui le permet, mais aussi même dans les camps que la violence qui peut exploser à chaque moment et les attaques soudaines qui peuvent arriver, qui quand même rend justement cette sécurité précaire là aussi. Mais au-delà de ça, c'est aussi un entretien avec les autorités. On a parlé beaucoup de la lutte contre l'impunité et je suis rassurée que quand même les autorités, comme j'ai vu, ont fait beaucoup de fort aussi d'essayer d'améliorer la situation de redevabilité parce que c'est clair que le cycle d'impunité, si ça continue, si on ne coupe pas, il y a le cycle de violence qui va continuer. Donc là, c'est des questions, il y a beaucoup d'autres questions aussi qu'on a abordées, mais donc les questions de justice, les questions de justice transitionnelle, au-delà de la justice immédiate pour la redevabilité, et donc les enquêtes dont on a besoin, les preuves dont on a besoin, qu'on est aussi, on a une équipe sur le terrain qui appuie tous ces efforts aussi, ainsi qu'ici à Kinshasa. Mais au-delà, bien sûr, c'est aussi une question d'une sécurité des communautés en tant que telles. Donc, une question très importante pour les droits de l'homme.
Et quelles sont les actions que vous comptez mener pour le respect des droits de l'homme, surtout à l'Est, où chaque jour, il y a des pertes de vies humaines et où les droits de l'homme sont régulièrement réduits à néant par plusieurs groupes armés, comme vous venez de le dire, notamment les M23.
Déjà, on a les équipes qui travaillent sur le terrain, et c'est pour ça que j'ai été aussi très rassurée en voyant le travail excellent que font ces équipes qui font partie de MONUSCO, du Bureau conjoint pour les droits de l'homme, aussi dans les provinces, et c'est très important de travailler à proximité. Donc on va continuer à travers de ces équipes d'avoir l'appui aux autorités pour les défis qu'ils ont encore, surtout pour la lutte contre l'impunité. C'est pas si simple que ça.
Après votre visite à Kinshasa et à l'est du pays, qu'est-ce que la population congolaise peut attendre de votre visite?
Malheureusement, je ne peux pas résoudre la situation. Ce qu'on peut faire, c'est de montrer déjà par la visite elle-même qu'on n'a pas oublié ni la République démocratique du Congo, ni surtout ce qui se passe aussi à l'est du pays, et que c'est pas seulement une question pour les politiciens, mais pour nous, de la perspective des droits de l'homme, de dire qu'on va apporter ces informations, ces témoignages. Vraiment, il faut arrêter cette violence et il faut absolument avoir aussi une réponse pour que ces personnes, ces gens et le pays en entier puissent retrouver une société paisible, mais aussi avec le respect de chacun, de dignité de chaque vie et de chaque personne qui y vit, de toutes les communautés.
Elisa Brains Carries, vous remercions de répondre à toutes nos questions.
Merci beaucoup.
Non, nouvel an plus bref, l'ONU Femmes, RDC a lancé jeudi 2 mars 2023 à Kinshasa la campagne de dissémination digitale des textes de loi en faveur des femmes. C'est dans le cadre du projet d'appui au développement des petites et moyennes entreprises en République démocratique du Congo. Selon cette agence, l'accord signé entre elle et l'unité de coordination de ce projet pour la mise en œuvre de la réforme et de la dissémination des textes de loi en faveur des femmes dans les provinces du Nord Kivu, du Haut Katanga, du Congo central et de Kinshasa pour la période 2021-2023 vise d'une part à vulgariser à l'intention des femmes entrepreneurs et des communautés les lois favorables à l'activité entrepreneuriale des femmes et d'autre part à mener un plaidoyer collaboratif auprès des décideurs et des entreprises. Volet santé, la RDC intensifie la vaccination des personnes hautement prioritaires contre le coronavirus avec le soutien de l'ONU. Depuis avril 2021 jusqu'à mi-février 2023, plus de 12 millions de personnes ont été vaccinées pour la première dose, soit un taux de 10,2%, et près de 10 millions d'autres vaccinés complètement, soit un taux de 8,1%. Le tout avec l'appui des agences de l'ONU, dont l'OMS et l'UNICEF. Enfin, la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, a procédé le 17 février dernier à la fermeture de sa base de Mitwanga à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de la ville de Beni, au Nord Kivu. Cette fermeture entre dans le cadre du plan de transition de la mission onusienne, un plan qui préconise un retrait progressif, ordonné et responsable de la MONUSCO de la RDC, notamment à la suite de la calmie observée dans la zone depuis plusieurs mois.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
L'invité de ce jour, nous l'avons dit dans le sommaire, c'est M. Aimé Kasereka, responsable de e-report au sein du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF RDC. À Beni, une soixantaine de jeunes, dont 30 filles, ont pris part à une formation de 5 jours organisée dans cette ville par la plateforme e-report. Il s'agit d'un renforcement des capacités des jeunes de Beni en matière de plaidoyer. Ces jeunes sont des volontaires qui s'engagent à travailler bénévolement pour contribuer au changement positif de la communauté. Comment ces jeunes travaillent-ils et quel est le vrai rôle de e-report au sein de la communauté? Aimé Kasereka l'explique dans cet entretien avec Sadiki Aboubakar.
Monsieur Aimé Kasereka, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'on entend d'abord parler de U-Report?
Soit U-Report est un programme de jeunes, de Congolais, où les jeunes partagent les points de vie et participent à la prise de décision à travers le sondage que nous lançons chaque mois. Mais aussi, ils se forment sur différentes thématiques qui sont disponibles via la plateforme U-Report. Mais aussi, ils sont engagés à travers des petites actions qu'ils organisent dans leur communauté pour contribuer tant soit peu avec le moyen disponible au changement dans leur communauté.
Vous dites que les jeunes à travers U-Report, ils participent dans la prise de décision, comment?
Oui, en fait, nous avons des sondages que nous lançons chaque mois avec différentes thématiques. Et à partir des réponses que les jeunes proposent, il y a des décisions qui sont prises. Par exemple, le ministère de la Jeunesse, des fois, il nous propose des sondages pour savoir comment ils peuvent travailler avec les jeunes. Et nous voyons la réaction des jeunes face à ces sondages-là qui sont proposés par le gouvernement et qui orientent, par exemple, la prise de décision, le plan de travail de certains ministères.
Et ces sondages sont faits à travers quel canon? Et puis, est-ce que tous les jeunes peuvent accéder à ces sondages ou bien uniquement des jeunes membres ou identifiés membres de U-Report qui en ont accès?
Ok, en fait, la plateforme, premièrement, il faut connaître qu'elle est ouverte à tout le monde. Et pour participer aux différentes activités de la plateforme U-Report, il faut être enregistré. Et pour s'enregistrer, il suffit d'envoyer le mot Go par SMS au SAE et vous allez suivre la procédure pour vous enregistrer.
Go.
Le mot Go, oui.
Une fois... C'est sur tous les réseaux.
Oui, c'est sur tous les réseaux et c'est gratuit. Donc l'enregistrement, tout comme la participation au sondage, est gratuite. Une fois vous êtes enregistré, tout ce qui se passe sur la plateforme, les sondages que nous lançons, vous allez participer. Mais si vous n'êtes pas enregistré, il est difficile que vous puissiez avoir également les sondages que nous partageons.
Et comment est-ce que ces jeunes s'engagent, par exemple dans le développement du milieu, dans la sécurité, comment est-ce que ça se passe?
En fait, les jeunes, c'est ce dit à un moment donné, on ne va pas rester virtuel, juste participer au sondage ou se former à travers les centres de formation qui sont disponibles 24 sur 24. Ils se sont dit non, on doit quand même mener des actions pour contribuer au changement dans nos communautés. C'est pourquoi ils ont créé eux-mêmes ce qu'ils appellent communauté U-Report. Donc les communautés U-Report, ce sont des regroupements de jeunes dans différents quartiers, dans différentes villes, où chaque mois au moins ils réalisent une action dans la communauté qui contribue tant soit peu au changement. Ça peut être une action d'assainissement, ça peut être une action de charité, visite des orphelins, ça peut être une action de renforcement de capacités entre eux. Il y a vraiment pas mal d'activités que les jeunes organisent pour contribuer au changement dans leur communauté.
Et est-ce que l'UNICEF qui parraine cette structure met en disposition de ces jeunes-là, par exemple, des moyens de communication ou moyens de protection en cas d'inquiétude?
Okay,
parce que quand on parle de la sécurité, on dénonce ceci, on dénonce cela.
Bon, c'est pourquoi nous organisons ce programme de renforcement des capacités pour donner aux jeunes des informations claires et précises sur comment, par exemple, ils peuvent dénoncer des cas, veiller sur leur sécurité personnelle. Donc, quand ils mènent les activités, nous leur demandons par exemple de notifier aux autorités, ne peuvent pas faire des activités sans informer les autorités locales de tout ce qui soit en train de mener.
Alors, quel message vous pouvez adresser à toute la communauté, toute la jeunesse du pays par rapport au rôle qu'est censé jouer le U-Report et aussi l'importance de cette structure au sein de la communauté?
C'est de demander à tous les jeunes des régions du mouvement U-Report. C'est vraiment un mouvement, c'est un programme qui leur donne la parole. Donc à travers leur participation au sondage, leur point de vue sont pris à compte.
Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'un résultat de sondage effectué par les jeunes de U-Report qui a débouché à une activité ou un programme ou une décision quelconque? Palpable.
Merci beaucoup. Déjà, l'exemple, c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant, la formation à cours. C'est que, à la fin de l'année 2020, nous avons lancé un sondage pour demander aux jeunes s'ils voulaient s'exprimer sur quelle thématique l'année 2020 ou ce qu'ils voulaient qu'on fasse avec l'année 2022. La majorité des jeunes ont proposé des séances de renforcement des capacités. C'est pourquoi nous avons mis en place ce programme dénommé U-Report, où nous faisons des marathons de formation pour essayer de coacher les jeunes, notamment sur le plaidoyer, parce que pour mener les activités dans leur communauté, ils ont besoin d'avoir une connaissance sur le plaidoyer. Et la ville de Beni est maintenant la 7e ville à avoir bénéficié de cette formation. Le souci, c'est que nous puissions toucher toutes les villes de la République démocratique, parce qu'à l'heure actuelle, nous avons au moins 65 communautés U-Report à travers le pays.
Aimé Kassereka, merci.
Merci beaucoup.
Comment combattre les fausses informations et les rumeurs? Retour à Goma, au Nord Kivu, où la MONUSCO a organisé vendredi 24 février dernier un atelier sur la désinformation et ses conséquences. Y ont pris part, outre la MONUSCO elle-même, des représentants des étudiants, de la presse et de différentes communautés locales. Dans cette région, des fausses informations et des rumeurs sont largement utilisées sur les réseaux sociaux pour alimenter des tensions et inciter à la violence, avec toutes les conséquences qu'elles entraînent. Suivez ces dossiers de Bernardine Diambo.
Au cours de ces assises, la MONUSCO, à travers ses différentes sections, dont l'information publique, les affaires politiques et les droits de l'homme, ont échangé avec les 22 participants, notamment des influenceurs de médias sociaux sur cette problématique de la désinformation. Le directeur ad interim de la communication stratégique et de l'information publique parle de l'importance de cette rencontre. Amadou Ba.
La RDC compte 4 millions d'utilisateurs des médias sociaux, soit 5% de la population, et 3,7 millions d'habitants qui disposent d'un compte sur Facebook. Donc les réseaux sociaux sont assez dynamiques, d'où la pertinence de la tenue de cette rencontre.
Tout en jugeant cette thématique pertinente et opportune par rapport à la situation que connaît la RDC en général, et le Nord Kivu en particulier, les participants en tant qu'influenceurs positifs des médias sociaux ont été appelés de bien vérifier l'information avant de balancer sur les réseaux sociaux. Suivons à nouveau Amadou Ba.
Avant de propager une information, il faut la vérifier, vérifier la date, vérifier le site, vérifier les intentions des auteurs. On doit mettre un peu d'ordre et surtout appliquer des lois. Et si ces lois n'existent pas, faire des lobbying auprès des représentations des parlements, que ce soit l'Assemblée nationale ou le Sénat, pour légiférer davantage dans son domaine aujourd'hui qui est difficile à contrôler.
Le président des étudiants du Nord Kivu revient également sur les conséquences de la désinformation, tout en proposant la création d'une gestion commune de l'information qui permettra d'avoir de vraies informations. Wilfried Akili Mali Linjanja.
Nous connaissons beaucoup de cas de décès, beaucoup de cas de vandalisme des installations de l'État ou soit des partenaires de notre pays à cause de la désinformation. On pense que c'est très important de créer un système de gestion commune de l'information entre les différents intervenants de la société civile, les partenaires à notre pays et l'État lui-même.
En revanche, d'autres estiment que ces fausses informations ont pour but, entre autres, de manipuler la population mais aussi faire du populisme. Ainsi, le président de la jeunesse territoriale de retour demande à la population de faire attention aux fausses informations. Patient Tuizere.
Les informations qui circulent sur les réseaux sociaux, il y a aussi les informations qui circulent aussi sur quelques médias, sur Facebook, sur WhatsApp et sur Twitter. Alors, avant de confirmer l'information, il faut que la population puisse bien checker et voir la source de l'information. Parce que l'ennemi est en train de jouer et ce jeu-là, il fait circuler des mauvaises informations sur les réseaux sociaux pour faire paniquer la population.
En tenant compte des dégâts collatéraux que crée la désinformation, la MONUSCO a suggéré aux participants de jouer un rôle des ambassadeurs et ambassadrices de la paix, de l'unité et de la cohésion sociale tout en bannissant les discours de haine. Goma, Bernardine Diambou, Radio Kapi.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
La MONUSCO a construit et asphalté des routes à Goma. Pourquoi pas à Bunia? La question a été posée à la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC pendant sa visite dans cette ville, suivant sa réponse.
Alors, vous savez, on peut toujours vouloir le meilleur. Alors, je crois qu'il faut partir du fait qu'il y a des routes qui ont été améliorées aussi, ici, en Ituri. Très bien, asphalté. Moi, je veux bien avoir aller dans la lune. C'est un souhait, mais on fait avec les moyens dont nous disposons, avec notre ingénierie civile et notre ingénierie militaire, qui font beaucoup pour faciliter, comment on appelle ça, le passage pour tout le monde, parce qu'une fois qu'une route est améliorée, même si elle n'est pas asphaltée, ça facilite quand même les déplacements.
Le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
Retenez quelques rendez-vous de la semaine qui commence 9 mars. C'est l'arrivée à Kinshasa d'une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU. En ce qui concerne le calendrier des journées de l'ONU, deux dates sont à noter. 8 mars, journée internationale de la femme, et 10 mars, journée internationale de la femme juge. C'est la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site www.radiokapi.net, Radio Okapi en un mot. Merci de votre attention et merci également à Charlie Louyeye qui en a assuré la coordination technique. Je suis Honoré Missenga Kalala. C'est avec un grand plaisir que je vous ai présenté cette émission produite, coordonnée et réalisée par votre serviteur. Restez toujours à l'écoute de la Radio de la Paix pour la suite de nos programmes. Le prochain rendez-vous, c'est dans exactement 7 jours. Ciao.